Bonjour à tous. Donc le premier cours aujourd'hui va être consacré à examiner un certain nombre d'éléments concernant la présidentialisation des démocraties. Je ne reprends pas l'historique de la présidentialisation des démocraties car je considère que le cours de l'an dernier a permis d'explorer les trois grands moments de cette histoire, 1848 en France, Weimar en Allemagne et puis bien sûr le moment gaulliste en France. La présidentialisation, il faut toujours avoir ces éléments en tête, à trois dimensions. Une dimension institutionnelle, c'est l'avènement de la prééminence de l'exécutif. Une dimension, et donc ça que l'on rencontre dans tous les pays, une deuxième dimension, elle, constitutionnelle, qui est l'élection au suffrage universel de la tête de l'exécutif, et que là, on ne rencontre que dans un certain nombre de pays. Et troisièmement, une dimension fonctionnelle, la personnalisation de la politique. Cela que l'on rencontre dans tous les pays, que le président, la tête de l'exécutif, soit élu au suffrage universel, ou bien que le chef de l'exécutif, un premier ministre, soit déterminé par ce qu'on a coutume d'appeler en sciences politiques des élections masquées. Dans le présent cours, je voudrais d'abord m'interroger sur les ressorts démocratiques de la présidentialisation. Car au-delà de la production médiatique d'une personnalisation de la politique, souvent on met l'accent sur cette fonction de médiatique, il y a des ressorts proprement démocratiques à la présidentialisation. Ils sont de trois ordres. La présidentialisation apporte d'abord une réponse à une demande sociale d'imputation. La démocratie s'appréhende en effet au premier chef comme un régime dans lequel le pouvoir est responsable, l'élection n'étant qu'une des modalités de la mise à l'épreuve de celle-ci. Et la reconnaissance d'une responsabilité implique en effet un jugement. Elle instaure une forme de dépendance des gouvernants vis-à-vis des gouvernés. Elle n'a ainsi de sens qu'avec un pouvoir personnalisé, car elle doit être attributive pour s'exercer, alors qu'une assemblée, elle, est structurellement irresponsable. C'est un point sur lequel Necker, le premier véritable théoricien du pouvoir exécutif, dans son fameux livre de 1792, du pouvoir exécutif dans les grands États, avait fortement mis l'accent. Comment avait-il demandé à propos des assemblées révolutionnaires, ne serait-on pas effrayé de l'autorité sans bornes d'un être collectif qui, passant dans un clin d'œil d'une nature vivante à une nature abstraite, n'a besoin ni de compassion ni de pitié et ne redoute pour lui-même ni condamnation ni censure. Situé aux antipodes des vues politiques de Necker, un fréron, celui qui était l'éditeur de l'Orateur du peuple, avait développé une analyse comparable. Il avait appelé en l'an 3, fameusement, ses collègues parlementaires à retirer, je le cite, de leurs mains inviolables, un pouvoir exécutif qu'il souhaitait, lui, voir confié à des mains responsables. Responsabilité nécessairement liée, de son point de vue, à une élection populaire. Ces deux critiques du régime d'assemblée avaient alors été inaudibles, tant les vertus d'un principe d'impersonnalité constituaient un dogme indiscutable. Mais l'idée fera son chemin. Les citoyens auront en effet clairement le sentiment d'une confiscation, d'une privatisation de l'exercice de la responsabilité du pouvoir dans les gouvernements que l'on peut dire représentatifs, aristocratiques, traditionnels. Car tout se jouait alors dans un monde clos, des partis, des arrangements parlementaires. À l'inverse, le principe de l'élection de la tête de l'exécutif radicalise et polarise la responsabilité. Et c'est ce qui rend ce principe attractif pour les masses dépossédées d'une capacité de peser sur le cours des choses. La présidentialisation, en second lieu, répond aussi à une attente sociale de volonté, car la personnalisation de la politique donne un visage à cette volonté. Cette dimension s'est d'abord accrue, il est important de le souligner, au fur et à mesure que s'est dissipée l'idée révolutionnaire. Quels qu'aient été ses modes d'expression, cette idée révolutionnaire revenait en effet à encastrer les projets de changement du monde dans une vision plus large du devenir historique. Le marxisme, qui a longtemps dominé l'imaginaire des partis de gauche dans le monde en a été une des théorisations les plus structurées. Avec lui, c'est l'histoire qui portait sur ses épaules la demande de volonté, constitutive de la modernité démocratique. Volonté dont chaque individu pouvait ensuite être un acteur en participant aux organisations chargées d'accompagner et d'accélérer le mouvement de l'histoire. L'effacement de la perspective révolutionnaire a, en conséquence, entraîné un sentiment de perte et de désappropriation qui a lui-même conduit à reporter l'attente de volonté sur la figure du grand élu. Report d'autant plus marqué que le pouvoir exécutif n'a cessé de s'affirmer. La présidentialisation-personnalisation des démocraties correspond en troisième lieu à une demande de plus grande lisibilité des institutions et des mécanismes de décision. Dans un monde gouverné par la complexification de ces mécanismes, marqué par l'anonymat toujours croissant des grandes bureaucraties, elle répond à une attente de simplification et de plus grande visibilité de la sphère politique. La tête de l'exécutif, avec l'omniprésence de son image et la reproduction de toutes ses paroles, tranche avec l'opacité ambiante du système politico-administratif. Cette présidentialisation se présente par ce troisième biais aux yeux des citoyens comme le vecteur d'une possible, je dis bien possible, réappropriation sensible de la vie politique. Ces trois vecteurs démocratiques rendent, à mon sens, ce mouvement irréversible. Mais il faut immédiatement noter qu'ils peuvent en même temps être regardés d'un œil suspicieux, chacun d'entre eux pouvant se retourner contre lui-même. L'exercice de la responsabilité s'opère ainsi plus clairement, mais en prenant simultanément la forme d'un chèque en blanc. L'exercice plus direct de la volonté risque de son côté en permanence de se dégrader en volonté-spectacle. La possibilité d'une lisibilité plus grande des institutions peut enfin n'être qu'un mirage, un effet de communication. La présidentialisation des démocraties s'avère ainsi aussi problématique qu'incontournable. Mais on ne peut en rester à un constat aussi sommairement établi. Pour avancer dans l'analyse, il faut distinguer dans ce caractère problématique ce qui tient au mode d'institution et de légitimation de l'exécutif, l'élection, et ce qui renvoie à la nature même du présidentialisme, la suprématie de l'exécutif sur le législatif. Considérons d'abord les limites spécifiques de la légitimation par l'élection dans le cas présidentiel. Les théories classiques de la légitimité ont été les théories de l'autorisation du pouvoir, rendant acceptable l'exercice d'un commandement. C'est bien de cette façon que Max Weber avait construit sa fameuse typologie. C'est aussi de cette façon que Ferrero avait compris les choses dans un ouvrage, lui aussi, mûri dans la tourmente d'un conflit mondial, « Les génies invisibles de la cité », livre qui était un des livres de chevet du général de Gaulle. « Les principes de légitimité, disait Ferrero, sont des justifications du pouvoir, c'est-à-dire du droit de commander. Parmi toutes les inégalités humaines, poursuivait-il, aucune n'a autant besoin de se justifier devant la raison que l'inégalité établie par le pouvoir. Si le pouvoir vient d'en haut, la légitimité, estimait-il, en parlant des sociétés modernes, vient toujours d'en bas, car elle implique, d'une manière ou d'une autre, le consentement actif ou passif, mais sincère, de ceux qui doivent obéir. Consentement essentiellement exprimé par le biais de l'élection en démocratie. Le maître mot de la démocratie, en déduisait logiquement Max Weber, est de choisir directement un chef. C'est la définition la plus concise que l'on puisse effectivement donner de la démocratie d'autorisation. Tout un ensemble de réflexions contemporaines sur le leadership en démocratie reviennent toujours, in fine, à cette théorie weberienne des liens entre charisme et choix populaire. Et l'extension planétaire de l'élection suffrage universel de la tête de l'exécutif témoigne de la force de ce qui est devenu une sorte d'évidence pratique. Mais cette vision n'a en même temps cessé de susciter des résistances et des interrogations, tant il apparaît évident que l'élection ne suffit pas à régler le rapport entre gouverné et gouvernant. Faute d'alternative, elle a pourtant fini par s'imposer, même si c'est souvent sur le mode d'une fatalité résignée. Le problème est que les limites d'une légitimation par le seul suffrage universel sont particulièrement marquées dans le contexte du présidentialisme. On peut dire que l'élection de la tête de l'exécutif exacerbe en effet tout un ensemble de tensions structurelles inhérentes au fait même de l'élection. Ces tensions structurelles sont au nombre de quatre. La première résulte du fait que se mêlent dans l'élection deux éléments, une procédure de sélection et un mode de légitimation, alors qu'une forme unique de jugement, le principe majoritaire, en détermine l'issue. Or, ces deux éléments ne sont pas dans un même rapport à ce principe. Celui-ci s'impose aisément comme modalité arithmétique de désignation du vainqueur d'une compétition, car l'évidence des chiffres peut là accorder tout le monde, c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais il en va différemment au regard de la légitimité que confère un résultat acquis sur une telle base majoritaire. L'achèvement satisfaisant d'une procédure de sélection se double ainsi d'une légitimation inaccomplie. Et l'écart entre ces deux éléments, il faut le souligner, est limité dans le cas d'une élection d'une assemblée représentative. Car le nombre et la diversité des élus conduisent à une forme d'expression de la pluralité des intérêts et des opinions, à défaut d'une véritable volonté générale, qui d'ailleurs n'est jamais préexistante à l'expression citoyenne. Mais une élection présidentielle ne présente pas ce caractère. On peut dire que l'élection d'une seule personne ne met pas en œuvre les éléments de correction représentative qui existent dans le cadre de l'élection d'une assemblée. Le bénéficiaire de la décision électorale, dans le cas présidentiel, est donc soumis à l'épreuve d'un déficit spécifique de légitimité. Déficit qui se traduit d'abord arithmétiquement par le fait que le nombre d'électeurs ayant donné leur voix à l'élu ne représente souvent in fine que 20 à 25% des inscrits. L'écart à l'opinion, quelles que soient les limites de l'appréhension de celle-ci par les sondages ou les réseaux sociaux, apparaît du même coup immédiatement, la population dans son ensemble s'exprimant, elle, pleinement dans ce cadre. L'écart du peuple social au peuple électoral est donc particulièrement manifeste dans le cadre de cette élection. En second lieu, toute élection se lie à l'expression d'un divorce entre le type de qualités qui font le bon candidat et celles qui sont requises pour gouverner efficacement. Le bon candidat doit être capable d'attirer à lui les électeurs. Il s'agit pour lui de séduire, de manifester sa proximité, d'agglomérer des populations composites et donc de multiplier des promesses, au moins partiellement contradictoires, et de tenir des langages différents. Tout cela à des degrés certes divers, tandis que gouverner oblige à afficher des choix et rend difficile de suivre trop longtemps des routes divergentes. Gouverner, pourrait-on dire, c'est prendre des décisions qui déchirent périodiquement le voile d'imprécision calculée que le langage politique s'efforce en permanence de tisser. Un tel divorce est donc structurellement générateur de déception et produit un rejet du monde politique. Mais ce divorce est beaucoup moins prononcé s'il s'agit d'élire de simples représentants. Parce que ceux-ci, s'ils sont dans l'opposition, peuvent d'abord continuer à tenir de façon continue leur langage de candidat. Et s'ils sont dans la majorité, ils ne sont pas directement les gouvernants et ils peuvent continuer à manifester certaines formes de distance avec le gouvernement qui est issu de la majorité qu'ils ont constituée. On le voit tous les jours. Une élection est en troisième lieu traversée par une tension entre un principe de similarité et un principe de distinction. Elle affiche d'un côté une finalité représentative au sens propre du terme, les élus ayant une fonction de figuration du social. Ils doivent pour cela être proches de ceux qui les ont choisis, être à leur image idéalement, partager leurs préoccupations, jouer un rôle de porte-parole. La qualité dont ils doivent faire preuve pour obéir à ce principe de similarité, c'est d'être quelconque. Mais on attend de l'autre côté de l'élection qu'elle sélectionne des personnes expertes qui possèdent des talents éminents qui les différencie du reste de la population. Les représentants constituent dans ce cas une sorte d'aristocratie élective, pour reprendre une formulation souvent employée pendant la Révolution française. On peut dire que l'élection, toute élection, est une procédure qui oscille en termes d'effets attendus entre la notion de sondage représentatif ou de tirage au sort, sondage représentatif et tirage au sort étant deux modalités techniques d'expression du quelconque, et la notion de concours ou d'examen, deux procédures de hiérarchisation sélective. Et on voit bien que dans tous les débats contemporains, il y a à la fois des propositions de recours, par exemple un usage accru du tirage au sort, mais aussi des propositions qui visent à démocratiser, par exemple, la fonction d'expertise avec les jurys citoyens. Et donc c'est bien ces deux massifs qui sont classiquement examinés lorsqu'il s'agit de considérer ce qui est la fonction de l'élection. Et on peut dire que les deux principes de similarité et de distinction peuvent là encore trouver une forme d'équilibre dans une assemblée représentative. Et il est en outre possible d'imaginer des procédures et des institutions pour fortifier simultanément chacun de ces deux principes. C'est ce à quoi je viens de faire référence. L'élection populaire du chef de l'exécutif se caractérise, elle, par le fait qu'elle n'a pratiquement aucune dimension de représentation-figuration. Celui-ci peut, ce qui est différent, prétendre incarner la nation, mais il ne peut être quelconque. Cela redouble du même coup les attaques du côté de sa différence, qui se manifeste par la polarisation sur sa personne de la réponse à toutes les demandes sociales. On peut considérer à cet égard qu'il est mécaniquement institué à son corps défendant en sauveur suprême ou en deus ex machina, ce qui ne fait que redoubler les effets de son langage de candidat centré sur la promesse de pouvoir changer le monde. Et la perception d'une relative impuissance pratique de celui qui deviendra un gouvernant à l'issue de la bataille électorale n'en sera que plus forte. Une élection présidentielle présente de cette façon une triple différence avec les élections ordinaires, entre guillemets, locales, ou celles d'une assemblée représentative. Mais il faut encore noter un quatrième point. C'est que l'élection se pose toujours en termes de possible réélection. Toutes les théories de l'élection ont toujours en effet inclus une réflexion sur la réélection. C'est la perspective de la réélection qui a classiquement été considérée comme la clé du rapport entre représenté et représentant. La perspective de la réélection conduit en effet le représentant à anticiper le jugement à venir des électeurs et donc à se comporter au présent en tenant compte de cette anticipation. C'est une façon décisive de pousser l'élu à être plus fidèle à ses engagements, car de son côté, l'électeur se détermine en fonction du comportement passé du candidat. C'est ce qu'on appelle le vote rétrospectif. Cette dimension introduite dans le fonctionnement démocratique par la perspective d'une réélection et le caractère rétrospectif des motivations de l'électeur a bien été établi dans de nombreux travaux de sciences politiques. De même qu'a été évalué l'avantage qu'il y avait à être le candidat sortant. Aux États-Unis, il y a notamment une énorme littérature sur ce qu'on appelle l'incumbency. Mais ces facteurs, qui jouent un rôle très sensible au niveau d'élections locales, sont beaucoup moins marqués dans le cas d'une élection présidentielle. Essentiellement, me semble-t-il, parce que le caractère principalement négatif du vote est dans ce cas plus affirmé, donnant du même coup un avantage substantiel au primo-candidat dont le langage de campagne n'est pas susceptible d'être contredit par des actes de gouvernement. L'élection populaire de la tête de l'exécutif radicalise enfin l'opération de distinction à laquelle procède tout scrutin, par la position unique qu'elle confère aux détenteurs de cette charge. L'élévation personnelle spécifique de l'élu qui en résulte se double en effet d'une distinction de légitimité par rapport aux autres pouvoirs, en établissant un lien direct avec les électeurs, c'est-à-dire sans la médiation organisée des partis, l'élu est doté d'une sorte de super-légitimité qui tend mécaniquement, d'ailleurs, à alimenter un certain illibéralisme. Cette hiérarchie implicite entre légitimité faible du pouvoir législatif, expression des divisions partisanes et donc par essence divisée, et légitimité forte de l'exécutif, expression de l'un du social, a été au cœur de la vision gaulliste. De Gaulle s'en était longuement expliqué, notamment dans la célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964. L'esprit de la Constitution nouvelle, avait-il alors dit, consiste, tout en gardant un Parlement législatif, à faire en sorte que le pouvoir ne soit plus la chose des partisans, mais qu'il procède directement du peuple, ce qui implique que le chef de l'État, élu par la nation, en soit la source et le seul détenteur. Vous le savez, il était très critique du modèle présidentiel américain, qui implique une stricte séparation des pouvoirs, qu'il jugeait inapplicable en France, du fait de la rigidité des divisions partisanes. Pour lui, le présidentialisme était d'abord synonyme de légitime concentration des pouvoirs. Il a dit dans des termes sans équivoque. Il doit être évidemment entendu, a-t-il dit dans cette fameuse conférence de presse. Il doit être entendu que l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière au président par le peuple qui l'a élu, qu'il n'en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui. Et la distinction entre les fonctions et le champ d'action du président et du premier ministre était pour lui simplement une question de commodité gestionnaire dans les temps ordinaires. Et peu de temps après, il a répété de façon fameuse qu'il fallait distinguer les vainqueurs de compétitions locales et l'élu national. Donc, des élus n'étaient que des vainqueurs de compétitions locales et d'autres étaient des élus nationaux. D'où la potentialité que l'on peut dire illibérale du présidentialisme. Celle-ci ne découle pas en soi du phénomène de polarisation, personnalisation, mais découle du lien de celui-ci avec une conception étroitement majoritaire de la démocratie. Le problème de la règle majoritaire, je reviens rapidement sur ce point que je n'ai fait qu'évoquer tout à l'heure, et qu'elle superpose pratiquement un principe de justification et une technique de décision, alors que ces deux éléments ne sont pas de même nature et n'entraînent pas les mêmes conséquences. En tant que procédure, la dimension arithmétique du principe majoritaire s'impose facilement à l'esprit, car tout le monde peut s'accorder sur le fait que 51 est supérieur à 49, et son adoption permet d'imposer de façon incontestable un choix, donnant à la démocratie, sa définition la plus simple, c'est le pouvoir du dernier mot. Et l'arithmétique est la forme absolue du pouvoir du dernier mot. Mais en termes sociologiques, on ne peut pas dire que la majorité exprime l'ensemble du peuple. Elle ne désigne qu'une fraction de celui-ci, même si elle est dominante. Or, la légitimation du pouvoir par les urnes a toujours renvoyé à l'idée d'une volonté générale qui s'exprimait. On a seulement fait comme si le plus grand nombre exprimait cette volonté. C'est sur cette fiction que repose l'élection démocratique. Fiction que l'on peut dire techniquement justifiée, mais dont le caractère de fiction doit rester présent à l'esprit. C'est ce qui conduit d'ailleurs à considérer comme limitée la légitimité d'un pouvoir consacré de cette façon. Cette limitation prenant par exemple la forme de la reconnaissance de droits intangibles des individus. Limitation qui procède en second lieu du fait que l'autorisation de gouverner que donne l'élection, en constituant l'égalité d'un pouvoir, ne vaut pas comme validation automatique de toutes les actions et décisions de ce pouvoir. Le propre de l'élection au suffrage universel de la tête de l'exécutif est ainsi d'exacerber la fiction démocratique en donnant une super-légitimité que l'on pourrait dire d'ordre strictement fonctionnel du fait de la taille de l'électorat concerné. Le propre du césarisme est d'être fondé sur la confusion d'une telle super-légitimité fonctionnelle qui conduit à une hiérarchisation des pouvoirs et d'une justification démocratique, fondée, elle, sur l'expression de la volonté générale qui conserve, dans le cadre d'une élection présidentielle, pourtant cette dimension de fiction. Le césarisme, prolongeant d'ailleurs cette première confusion fautive, en évaluant toute expression sociale à l'aune de ce critère de représentation numérique. Je rappelle que Napoléon III justifiait de cette façon la nécessité ou la liberté qu'il avait de brider la liberté de la presse, en disant que la presse n'avait aucun caractère représentatif. Les journalistes, disait-il, n'expriment que des idées personnelles car ils n'ont pas été élus, alors que le pouvoir, lui, a été élu par une majorité. Et donc, la parole de l'élu de la nation doit l'emporter sur la parole privée de ceux qui, justement, n'ont pas élu. Et donc la presse, disait-il, est une rivale illégitime des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, dans le monde, de fait, un certain nombre de gouvernements reprennent exactement cette théorie, pourrait-on dire, du césarisme. Sans avoir le droit d'élire, écrivait Granier de Cassagnac, un des grands théoriciens du régime de Napoléon III, la presse cherche à diriger les élections. Sans avoir le droit de figurer dans les corps délibérants, elle cherche à influer les délibérations. Sans avoir le droit de siéger dans les conseils du souverain, elle cherche à provoquer ou à prévenir les actes du gouvernement. De cette façon-là, on peut dire que le césarisme ramène l'ensemble des pouvoirs sociaux à ce pouvoir fondamental qui, lui, a été prouvé en quelque sorte, dont la nature dominante a été prouvée par l'élection. On peut dire que la pente vers une telle interprétation, explicitement illibérale, dans le cas français, est en quelque sorte assouplie, parce que la France est restée un état de droit. Mais elle aurait pu aussi, logiquement, conduire à la justification d'un gouvernement franchement autoritaire, comme en témoigne sa vision intégraliste que l'on voit dans tout un ensemble de démocraties autoritaires dans le monde aujourd'hui. Ce spectre du césarisme a nourri une appréhension que l'on pourrait dire fataliste de la présidentialisation des démocraties, ce que l'on exprime lorsqu'on parle d'un phénomène irréversible. On ne peut revenir en arrière. C'est en effet la formule qui est invariablement utilisée par ceux qui déplorent ce qu'ils estiment être la maladie du présidentialisme et pour justifier en même temps leur résignation à voir s'imposer l'élection populaire de la tête de l'exécutif. C'est une façon de se dispenser de penser la question. Car de quelle nature est justement cette impossibilité ? Tient-elle seulement à la force d'une habitude ? Au poids d'arguments dont la démagogie rendrait difficile la contestation ? Ce serait alors dire qu'il est impossible de critiquer le suffrage universel dès lors qu'il a été accordé, qu'il y aurait un fait devenu irrésistible avec lequel il faudrait dorénavant composer. C'est d'ailleurs de cette façon que les conservateurs avaient effectivement fini par considérer le suffrage universel dans les dernières décennies du XIXe siècle en Europe. L'invocation de cette irrésistibilité du suffrage universel leur avait permis de dénigrer intellectuellement ce suffrage tout en consentant dans les faits à ce qu'il se soit imposé. C'était une sagesse d'impuissance qui s'était imposée à leur esprit. On ne saurait reproduire aujourd'hui cette attitude. L'élection présidentielle doit être justifiée en son principe et pas seulement comme une concession au hasard de l'histoire. Cette justification tient au fait qu'elle mobilise les citoyens, leur confère importance et dignité, les intéresse à la politique, même si elle exacerbe simultanément, comme on l'a vu, les dangers, les pathologies et les limites propres à toute élection. Le vrai remède est double. Il consiste d'abord à organiser le présidentialisme comme régime, de telle sorte que soit contrôlée sa propension à l'illibéralisme, et ensuite à le penser comme gouvernement démocratique. Parlons d'abord de la régulation de l'illibéralisme comme régime. Trois grandes techniques ont été utilisées. L'encadrement de l'élection, la reparlementarisation des démocraties et le retour à des pouvoirs impersonnels. L'encadrement de l'élection d'abord. De toute l'élection, celle de la tête de l'exécutif est déjà, il faut le noter, la plus strictement encadrée dans de nombreuses constitutions. Presque partout, les constitutions prévoient une limitation du nombre de mandats qui peuvent être exercés ou fixent des règles de consécutivité, règles qui sont toujours plus contraignantes que celles qui régissent les élections de parlementaires ou d'élus. Regardons qu'aux États-Unis, le Sénat américain est maintenant devenu presque un Sénat à l'ancienne composé de figures riches qui sont en place depuis peut-être une vingtaine d'années pour beaucoup d'entre elles, alors qu'aux États-Unis, le mandat du président est limité à deux. On notera d'ailleurs que c'est sur ce point que se joue très souvent la dérive autoritaire des régimes. La dérive autoritaire des régimes passe souvent par le fait que des présidents d'exercice manœuvrent pour introduire des modifications constitutionnelles qui visent à supprimer ce type de limite. Et c'est quelque chose de très fréquent, on le voit tous les jours. La possibilité, en second lieu, d'un recours à des procédures de révocation a souvent été mise en avant pour peser sur les élus et les inviter à rester fidèles à leurs engagements. Et le débat sur l'introduction de ces procédures a une longue histoire. On en retrouve la trace dans l'Antiquité. Il a aussi lieu au moment de la Révolution française ou lors de la discussion de la Constitution américaine de 1787. Au XIXe siècle, l'exemple de la Commune de Paris a encore souvent été évoqué, et on se souvient des célèbres formules de Marx à ce sujet, ainsi que les promesses de Lénine en 1917 n'ont suivi des faits d'un pouvoir des soviets fondé sur la notion de possible révocation. Mais la question, il faut le souligner, a plus souvent été abordée sous les espèces d'un vague idéal démocratique que précisément discuté en termes procéduraux pour être mis en application. Cette notion de révocation est en fait beaucoup plus complexe qu'il ne semble. Elle s'est historiquement inscrite dans trois cadres fort différents. Premier cadre, celui de la mise en œuvre d'une procédure judiciaire qui vise à destituer le titulaire d'une charge publique. C'est le cas de l'impeachment américain. Procédure qui a conduit à plusieurs reprises à mettre en accusation un président. Procédure très lourde, aux conditions de déclenchement relativement floues, ayant souvent, on l'a vu, une dimension qui était indissociablement morale et politique. Ce flou est lié au fait qu'a été repris dans la Constitution américaine les causes d'impeachment qu'il y avait eu dans l'ancienne tradition anglaise, à savoir treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors. C'est-à-dire que la notion de misdemeanors, de délit, est extrêmement vague, alors que celle, bien sûr, de trahison et de corruption est plus précise. Et les pères fondateurs américains se sont directement référés, d'ailleurs, à cette procédure anglaise pour l'instituer comme une bride mise sur l'exécutif par le corps législatif. L'impeachment américain a été inventé à cause de la séparation des pouvoirs. C'est le fait de la séparation des pouvoirs dans la Constitution américaine qui empêchait ce qui existait partout ailleurs dans les autres pays, la formation d'une responsabilité politique des ministres devant le Parlement. Alors que partout, il y avait une forme de responsabilité politique qui existait sur ce mode, et l'Angleterre a été l'endroit où elle s'est inventée, eh bien, aux États-Unis, la séparation du pouvoir le rendait impossible. On peut dire donc que c'était un moyen archaïque, compensateur de l'absence de mécanismes spécifiques d'exercice de la responsabilité de l'exécutif. Et c'est bien de cette façon, quand on lit le fédéraliste, que Hamilton et Madison ont défendu cette notion d'impeachment qui a été très discutée dans les conventions de ratification. On peut considérer maintenant que la procédure semble devenue très difficile à envisager pour autre chose que des grands crimes et qu'elle ne peut pas, en tout cas, être conçue comme équivalente au système du recall, dont je vais parler dans un instant, qui existe dans celle des États de l'Ouest, enfin de certains d'entre eux. Et de façon plus effective, dans certains pays, c'est aujourd'hui à travers la notion de responsabilité pénale du chef de l'exécutif qu'une procédure de destitution est parfois envisagée, tout en étant sérieusement encadrée. La révocation peut être conçue d'une deuxième façon. Elle peut être conçue comme une dérivation de la notion de mandat impératif, constituant alors la sanction d'un manquement à des engagements électoraux. Et c'est de cette façon que la notion de révocation a d'ailleurs été historiquement la plus souvent considérée en Europe et notamment dans le cas français. Sanction qui peut être mise en œuvre d'une double façon, par le déclenchement d'une nouvelle élection provoquée par la mise en œuvre victorieuse d'un réforme révocatoire, ou bien de façon strictement judiciaire, les électeurs pouvant porter plainte contre leurs élus pour non-respect de leurs engagements. Le mandat politique étant alors considéré, dans ce cas, comme équivalent à un mandat civil. Il y a eu des dizaines de propositions de loi allant dans ce sens dans la France des années 1880 à 1890. Elles ont été rejetées au nom de la conception classique du gouvernement représentatif qui implique la liberté de l'élu et aussi de leurs difficultés d'application pratique. Mais il y avait une logique de considérer que si le mandat est considéré comme un mandat civil, eh bien, il peut, celui qui n'a pas respecté ce mandat peut être poursuivi en justice. En tout cas, il y avait une logique intellectuelle. La demande de révocation peut, en troisième lieu, simplement tenir à la formulation d'une appréciation négative de la politique d'un élu ou de sa conduite. Et elle doit se lier pratiquement dans ce cas à l'organisation d'un référendum d'initiative populaire. C'est ce qui se passe avec la procédure du recall américain, qui est instituée dans 18 des États de ce pays. Seuls 7 États requérant d'ailleurs des motifs spécifiques pour provoquer son déclenchement. C'est-à-dire que dans la majorité des États américains, la procédure de recall peut être déclenchée pour n'importe quelle raison. Il est difficile de parler en général du recall américain parce que le droit électoral aux États-Unis n'est pas un droit fédéral. Donc chaque État a son droit spécifique et les conditions de mise en place de la procédure du recall concernant le nombre de personnes qui doivent être à l'origine de l'initiative populaire, la formulation de la question soumise au référendum, sont extrêmement variées. Ce qu'on peut dire, c'est que dans ce domaine, comme dans celui de l'organisation des référendums populaires en général, le principe général est rien. Tout se joue dans le détail des procédures. Si le déclenchement d'un référendum révocatoire ne nécessitait, par exemple, que l'initiative d'un nombre limité d'électeurs, 10% par exemple, et que celui-ci pouvait être lancé à tout moment, y compris peu de temps après l'élection, celle-ci perdrait toute signification. À l'inverse, si les conditions d'organisation étaient très restrictives, cela reviendrait à en faire un instrument de recours lié à des circonstances tout à fait exceptionnelles. Et c'est à cela que revenait, dans la Constitution allemande de 1919, le fameux article 43. Le fameux article 43 de la Constitution de Weimar, validé par Preuss et par Weber, prévoyait que le président du Reich puisse être déposé par un vote populaire, ce vote populaire ne pouvant être organisé qu'à la demande des deux tiers des parlementaires, ce qui était une condition extrêmement difficile à remplir. On notera aujourd'hui qu'il y a deux pays, le Belize et le Venezuela, qui ont mis en place des mécanismes de cette nature. Dans le cas du Venezuela, la procédure peut être déclenchée à partir de la moitié du terme d'un mandat, si 20% des électeurs inscrits demandent l'organisation d'un référendum révocatoire. Mais la révocation ne peut être décidée que si le nombre de votants en la faveur de cette révocation constitue un nombre de votants supérieur au nombre d'électeurs qui avaient précédemment élu le président. Donc c'est une condition extrêmement difficile à remplir. Et en plus, il faut qu'au moins 25% des électeurs inscrits aient pris part au vote. Il y a eu un exemple, en 2004, l'opposition a réussi à obtenir 20% des inscrits pour une pétition, mais ils n'ont pas gagné le référendum. Et l'autre pays, le Belize, qui est un petit pays d'Amérique centrale, a des conditions encore plus draconiennes. On peut dire que la procédure française de destitution du chef de l'État, telle qu'elle a été introduite par la révision constitutionnelle de 2007, dans les articles 67 et 68, constitue une variante en mineur de cette dernière approche politique. Le but de cette réforme, qui avait été souhaitée par le président de la République en 2002, une commission présidée par le juriste Pierre Avril avait été mise en place, le but avait été d'en finir, avait expliqué le rapporteur, avec la doctrine monarchique du roi qui ne peut mal faire, c'est-à-dire du souverain tout à fait irresponsable. Cette impunité avait été jugée intolérable. Et le rapport avait parlé de la nécessité d'introduire une soupape de sûreté. Mais le statut de la procédure de destitution n'avait en même temps pas été clairement défini. Parce que tout en soulignant que l'idée n'était pas d'introduire une sorte de responsabilité politique à l'image ressemblant à celle qu'il y a pour un gouvernement devant une assemblée. Il était dit que ça ne pouvait pas non plus être une responsabilité pénale, parce que là, le principe de l'irresponsabilité pénale est quand même fondamental. L'expression vague qui avait été utilisée, c'était de situer la responsabilité du chef de l'État dans le registre politique. Donc c'était quelque chose de très vague. Et il s'est en fait agi de mettre en place une procédure exceptionnelle pour faire face à des situations elles-mêmes exceptionnelles. La Constitution ne prévoit pas ces cas. Il dit simplement que le président peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc c'est une définition extrêmement large. Le rapport donne comme exemple, trois exemples. Avant, le président pouvait, toutes les constitutions des pays dites que pour haute trahison, un président peut être destitué. Mais là, le rapport donnait comme autre exemple l'exemple du crime, et donnait comme autre exemple aussi, ce qui est plus intéressant, parce que ça peut se passer normalement plus souvent, c'est l'utilisation manifestement abusive des prérogatives constitutionnelles. Il donnait comme exemple, comme utilisation manifestement abusive des prérogatives constitutionnelles, un usage déplacé de l'article 16, donc c'est extrêmement important. Il donnait aussi le fait qu'on refuse de promulguer des lois, chose qui peut être très importante en cas de cohabitation, ou de convoquer le Conseil des ministres, ou de signer des décrets en Conseil des ministres, voire de ratifier, qu'on refuse de ratifier des traités. Donc là, c'est tout de même, on peut dire, une forme de régulation extrêmement importante de l'illibéralisme présidentiel, mais toutes ces formes de régulation liées à l'idée de révocation ont une double caractéristique, c'est qu'elles peuvent être mises en œuvre généralement, sauf le cas de recall américain, mais ce n'est pas au niveau fédéral, ne peuvent être mises en œuvre que dans des circonstances relativement exceptionnelles, avec des procédures elles-mêmes relativement exceptionnelles. En France, il faut à la fois qu'il y ait le Sénat, que le Sénat et l'Assemblée nationale votent chacun à la majorité le projet de destitution, et qu'ensuite, constituées les deux assemblées sont constituées en haute cour, et que cette haute cour décide de la destitution. Donc c'est une condition quand même qui est très lourde. Mais indépendamment de cet usage dans les circonstances exceptionnelles, le problème des mécanismes de révocation, c'est qu'ils participent d'une correction de la procédure électorale. Ils restent inscrits dans le champ ainsi de la démocratie d'autorisation, parce qu'ils font toujours reposer sur l'élection ou des conditions de destitution d'un élu et de réélection d'un autre, la charge de l'accomplissement démocratique. Le deuxième grand vecteur de limitation de l'illibéralisme présidentiel a consisté à réfléchir à la reparlementarisation des démocraties. Il faut rappeler que la présidentialisation des démocraties s'était presque partout accompagnée de la mise en place de ce qu'on avait appelé le parlementarisme rationalisé. Et on a désigné par ce terme de parlementarisme rationalisé, l'ensemble des mécanismes et des formes d'encadrement de l'activité parlementaire qui permettaient de prévenir des risques d'instabilité gouvernementale chronique, ceux qui sont inhérents au régime d'assemblée normaux qui avait constitué au XIXe siècle et encore dans l'entre-deux-guerres l'idéal type du parlementarisme. Ces mécanismes consistent pour l'essentiel à rendre plus difficile la mise en œuvre de la responsabilité ministérielle par l'adoption de mécanismes procéduraux contraignants qui régissent le fonctionnement parlementaire. Les conditions de recours à la dissolution, la mise en place de délais contraignants pour le dépôt d'une motion de censure et surtout des conditions de majorité renforcées pour valider une telle motion ou des techniques électorales qui favorisent l'expression de majorité nette comme la limitation de la proportionnelle, les modalités d'accès à un éventuel second tour, etc. Le but a été, dans tous les cas, de protéger l'exécutif vis-à-vis du législatif. Et même dans les pays qui n'ont pas été des pays avec un président élu au suffrage universel, ces mécanismes de rationalisation du parlementarisme ont été introduits, et l'Allemagne a été un des premiers pays européens à s'engager dans cette direction après la Deuxième Guerre mondiale, en fixant notamment des conditions très contraignantes à l'exercice d'une motion de censure. Celles-ci ne pouvant être mises en œuvre qu'à la condition positive d'être déclenchées par une opposition capable de constituer une majorité cohérente. En Grande-Bretagne, le recours à la dissolution a de son côté constitué un instrument décisif de renforcement de l'exécutif en le rendant de fait maître du calendrier électoral. Je rappelle qu'à la différence de la France, l'usage de la dissolution est un usage très courant en Grande-Bretagne et qu'il est très rare qu'un terme électoral arrive à son échéance. Le gouvernement choisit dans les derniers mois le moment qui lui semble le plus favorable et ça n'est jamais simplement une date qui est fixée selon les normes calendaires ordinaires. Grande-Bretagne et Allemagne sont deux pays qui ne sont pas des pays qui appartiennent justement à la tradition présidentielle classique. Ils font partie de ce conservatoire européen, au contraire, du parlementarisme. La Ve République, elle a bien sûr été essentiellement construite en marquant la rupture avec le régime précédent sur cette base du parlementarisme rationalisé, notamment avec les fameux articles 49 de la Constitution et le fameux article 49.3 qui a souvent été mis en œuvre et souvent, en tout cas, évoqué. Et aussi cet article qui, comme en Allemagne, met une contrainte très forte sur l'expression majoritaire pour obtenir une motion de censure, et l'article aussi qui permet de faire passer un texte sans vote à la condition qu'une motion de censure ne soit pas déposée et ne soit pas votée. Donc là, c'est vraiment une des formes, je dirais, les plus fortes du parlementarisme rationalisé. Est-ce qu'il y a eu dans cette matière une exception française, la Ve République constituant un modèle ultra-présidentiel particulièrement menaçant ? La mémoire vive du césarisme rend certes les Français particulièrement attentifs aux pathologies qui peuvent dériver d'une élection au suffrage universel. Et parfois, la parole gaulliste a favorisé la crainte d'un glissement vers l'autoritarisme, notamment à travers les formulations des conférences de presse de 1964 et d'une autre conférence de presse de 1967 à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure. Mais aujourd'hui, sur le fond, considéré dans la perspective d'une comparaison internationale, le modèle présidentiel français est en fait progressivement rentré dans la norme. Si en France comme ailleurs, le rôle politique du Parlement dans la direction du pays a été politiquement secondarisé, l'ascendant de l'exécutif étant clairement affirmé, les fonctions parlementaires de contrôle, d'évaluation et d'interpellation ont en effet été parallèlement renforcées, notamment à travers la grande réforme constitutionnelle de 2008 qui a amendé 47 articles de la Constitution. D'une réforme constitutionnelle un peu fourre-tout, puisqu'à la fois elle a mis en place le défenseur des droits, à la fois elle a réformé le Conseil économique et social, mais elle a aussi, et au premier chef, traité évidemment de l'évolution des institutions. Et le rapport qui a été commandité, dans lequel il y a eu des personnalités politiques de tous bords et des grands juristes, a parlé d'un nécessaire rééquilibrage des institutions par un accroissement des attributions et du rôle du Parlement et explicitement souligné, je cite, « l'impératif de desserrer l'étau du parlementarisme rationalisé ». Donc c'est véritablement un tournant, et ce tournant a même fait parler de nouvelle constitution. En ce qui concerne la définition même du rôle du Parlement, il a changé de façon considérable. Car dans les constitutions, je dirais, traditionnelles, le rôle du Parlement, c'est d'élaborer la loi. Alors que là, la réforme constitutionnelle, en son article 27, dit simplement que le Parlement a trois fonctions. Voter la loi, voter, c'est-à-dire non pas élaborer la loi, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Donc c'est véritablement, on met l'accent sur le vote, mais pas l'élaboration, et on met l'accent sur le contrôle et l'évaluation. Effectivement, beaucoup d'articles de cette révision constitutionnelle ont prévu les conditions dans lesquelles des commissions parlementaires pouvaient avoir un rôle accru, comment la Cour des comptes pouvait se mettre au service du Parlement. Et indépendamment de certaines modifications concernant un usage, je dirais, exagéré du 49.3, notamment à partir du rôle que peut jouer l'Assemblée des présidents, il y a eu tout de même, on peut dire, globalement, un grand changement. Mais c'est une reparlementarisation que l'on peut dire fonctionnelle. Elle oblige le pouvoir exécutif à s'expliquer davantage et permet au Parlement d'être plus vigilant. Mais il n'y a pas d'inversion de la prééminence politique des organes gouvernants sur le Parlement. Dans le cas français, il y a même eu un renforcement de la position présidentielle vis-à-vis du Premier ministre. Parce que maintenant, il est dit que le président de la République est celui qui définit la politique de la nation. Alors qu'avant, ce rôle était donné au gouvernement. Alors qu'actuellement, le Premier ministre est simplement celui qui conduit cette politique. Donc il y a une différence qui est tout de même notable. Cependant, malgré cela, on peut dire que l'ultra-présidentialisme de type autoritaire et populiste ou populiste reste très prégnant dans le monde. Mais il reste très prégnant là où règne ce que j'appellerais un électoralisme majoritarien dominant. Prospère en effet dans ces cas des régimes dont les fondements et la rhétorique renvoient directement au modèle français du Second Empire. Se distingue évidemment aussi forcément du présidentialisme à cet égard les monarchies constitutionnelles démocratiques auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure. La troisième façon très importante d'avoir en quelque sorte canalisé les potentialités illibérales du présidentialisme, c'était la résurgence de nouvelles formes d'impersonnalité dans les démocraties. Si la rupture avec l'ancien monde de l'impersonnalité est une des caractéristiques majeures de la démocratie présidentielle gouvernante, de nouvelles formes d'impersonnalité ont en même temps fait récemment leur apparition. Formes qui ont une fonction correctrice de la propension à l'illibéralisme. La constitutionnalisation croissante des démocraties en est une des expressions les plus notables. C'est sur ce mode de la constitutionnalisation que s'est aujourd'hui opérée une forme de retour à l'ancienne idée du règne de la loi. Il est en effet frappant de constater que ce sont les articles des constitutions qui présentent les caractéristiques désirables que l'on attendait des lois au XVIIIe siècle. Trois caractéristiques désirables, la concision, l'immutabilité et le petit nombre. Avec la différence majeure que l'organisme qui est chargé de veiller au respect du texte n'est pas un simple exécutant passif. Les cours constitutionnelles interprètent les textes en cas de litige sur sa portée. Si ces cours présentent la caractéristique également décisive d'être des organismes collégiaux, qui rappellent en cela la vision ancienne des exécutifs, elles sont éminemment actives. Et c'est leur autonomie qui constitue dorénavant un des garde-fous les plus sûrs pour conjurer un glissement illibéral des pouvoirs gouvernants. En second lieu, les autorités indépendantes de surveillance et de régulation, dont le statut n'a d'ailleurs été que très peu théorisé, j'avais consacré il y a quelques années un cours qui était publié dans le livre « La légitimité démocratique » sur le sujet, sont en charge d'un nombre toujours plus important de domaines de la vie économique et sociale, voire politique, en matière d'organisation électorale par exemple. Ces autorités incarnent une autre modalité d'un retour à l'impersonnalité. Ce sont des institutions, elles aussi, il faut le souligner, qui se caractérisent par le fait qu'elles sont organisées sur un modèle collégial. Donc il est très important de voir que les institutions de l'impersonnalité aujourd'hui sont également des institutions organisées sur un mode collégial. Elles ont à gérer des raretés, veiller au fonctionnement de certains marchés, défendre des droits de façon à éviter les effets de favoritisme, de domination, de discrimination, de monopole destructeur de l'égalité des droits, de l'autonomie des personnes ou encore du caractère public de certaines ressources ou activités. C'est le principe d'impartialité qui définit dans ce cas le rapport démocratique à la généralité. Et elles opèrent dans des domaines où une dimension d'objectivité est socialement requise. Objectivité dont ces institutions sont les gardiennes, ou sont appelées à être les gardiennes, à travers l'attention au fonctionnement de la concurrence, par exemple, au maintien de formes de consensus, deux figures de la généralité. C'est sur ce mode, aujourd'hui, que renaissent des pouvoirs désubjectivés dans les démocraties. Pouvoirs liés à des fonctionnalités spécifiques et à des champs d'intervention bien circonscrits. Pouvoir dont l'instauration a à la fois résulté d'une pression citoyenne très conséquente et d'une concession des instances gouvernantes. Avec le développement de ces institutions, s'est édifié un autre rempart contre l'illibéralisme. Et leur vitalité est ainsi devenue aussi essentielle que celle des cours constitutionnelles à l'âge de la présidentialisation des démocraties. Même si elles n'ont pas encore trouvé, je dirais, la théorie adéquate à leur rôle démocratique. Mais cette vitalité ne doit pas être assimilée à une forme de dépolitisation. Ces deux catégories d'institutions ne sont en effet pas extérieures au champ démocratique. Elles sont même en son cœur, mais elles correspondent à d'autres modalités de mise en œuvre de la volonté générale que celles qui résultent du jugement majoritaire. Elles s'inscrivent dans un régime que l'on peut dire, en suivant le juriste Dominique Rousseau, d'énonciation concurrentielle de la volonté générale. Ces instances encadrent et régulent les organes gouvernants, mais ne les remplacent pas. Ceux-ci conservent un champ d'action considérable, celui de tous les domaines dans lesquels des différends en matière de gestion économique, de politique publique ou de conception de la justice, pour ne prendre que quelques exemples, appellent là des choix tranchants. Ces institutions ne procèdent donc pas, il est très important de le souligner, des perspectives qui sont, elles, franchement antipolitiques et antidémocratiques, qui sont liées à la vision de l'impersonnalité qui sous-tend la notion de constitutionnalisme économique, tel qu'il a été défini par James Buchanan dans le prolongement des travaux de Hayek. Ces auteurs en revenaient, eux, avec cette notion de constitutionnalisme économique, à l'utopie du XVIIIe d'un monde uniquement régi par le marché, jugé exprimer la plus objective des règles, celle de l'ordre naturel. Et Hayek, on le sait, avait défini dans cette perspective l'idée d'une démarchie comme type d'ordre concurrent de la démocratie, dans lequel la volonté humaine ne jouerait plus aucun rôle. Cette volonté humaine étant jugée structurellement arbitraire, que ce soit pour des raisons d'information incomplète ou de biais partisans. Je rappelle que c'est aussi dans la même perspective que le prix Nobel d'économie a été abordé il y a 10 ans, en 2004, à deux personnes, Kindlund et Prescott, qui prétendaient avoir démontré que l'application mécanique d'une règle stable produit toujours de meilleurs résultats que des décisions politiques. C'est leur fameux article qui s'appelait « Rules versus Discretion ». Chez eux, comme chez Buchanan ou Hayek, la règle génératrice d'automaticité est destinée à éliminer l'idée même de choix qui pourrait être alternatif. Et donc, s'agit là d'une impersonnalité totalisante et non pas de l'impersonnalité fonctionnelle à laquelle correspondent l'activité des autorités indépendantes et des cours constitutionnels. Se distinguent aussi de cette impersonnalité fonctionnelle les formes de gouvernement par les nombres et de gouvernance. La notion de gouvernement, enfin l'expression de gouvernement par les nombres ayant été employée par Alain Supiot dans son cours ici il y a 2 ans. Un exemple de ce gouvernement par le nombre, qui ne cesse de faire la une de l'actualité, est constitué par les déficits chiffrés de déficits budgétaires admissibles dans les pays de l'Union européenne, tels qu'ils ont été fixés par le traité de stabilité. Tous les habitants de l'Europe ont en tête, par exemple, le chiffre de 3%, qui définit le plafond budgétaire autorisé en pourcentage rapporté au PIB. Tant il a fait l'objet de commentaires quotidiens dans la presse. Son caractère mécanique est souvent contesté et son application fait l'objet d'incessantes négociations. Et on a parlé à ce propos de pilotage automatique. Mais il ne s'agit pas dans ce cas d'un constitutionnalisme économique au sens de celui de Buchanan et de Hayek. Ces chiffres ne font en effet que servir de substitut minimaliste à un défaut de constitution de l'Europe en un espace politique unifié. Le pilotage automatique, c'est en effet ce sur quoi on peut s'accorder quand on ne s'accorde sur rien d'autre. Donc, il a une dimension politique et il n'a pas une dimension théorique. C'est une dimension politique du pilotage automatique qui fait donc la différence avec le constitutionnalisme économique. Et donc, le constitutionnalisme économique qui viserait, et c'était proposé, à introduire dans des constitutions, là, des chiffres de déficit budgétaire admissible, ne sont pas du même ordre que ce gouvernement par les chiffres, me semble-t-il, au niveau européen. Il en va de même avec la notion de gouvernance. Elle renvoie à des modes de pilotage et de décision interactifs qui associent une pluralité d'acteurs, État, ONG, opérateurs privés, dans des processus enchevêtrés et continus de négociations et de compromis, qui ne s'insèrent pas dans un univers hiérarchisé de normes. Un niveau microéconomique, c'est l'équivalent d'une gestion décentralisée et participative. Au niveau international, puisque c'est surtout au niveau international que l'on parle de gouvernance, ou parfois au niveau local, disons, pensons aux conférences sur le climat pour illustrer le propos, c'est là aussi le substitut à un inexistant gouvernement mondial sous les espèces d'un bricolage participatif. Et donc, ça n'a pas du tout le même statut que la prétention, je dirais, théorique, là aussi, qu'il y a derrière l'idée d'impersonnalité chez Hayek, qui était théorisée de façon politique. On est dans ce cas du gouvernement par les nombres ou dans celui de la gouvernance, dans des formes d'entre-deux pré-politiques et pré-démocratiques. Ces trois différentes façons, par la régulation d'élection, par l'impersonnalité ou par la reparlementarisation, ces trois façons de concevoir l'encadrement des potentialités illibérales du présidentialisme peuvent jouer un rôle majeur. Mais elles ne répondent pas à la question de l'exercice démocratique au quotidien de ce pouvoir. Et donc, ce sont cette question que nous allons explorer dans les séances qui viennent, à commencer par tout à l'heure.